bonjour à tous. Comme vous le voyez en direct, on cherche Mario Monti qui est juste à côté et qu'on va aller chercher le plus rapidement possible pour pouvoir commencer. On a toujours quelques problèmes techniques et j'espère que tout le reste fonctionnera bien. J'espère que vous nous ferez confiance quand même pour rentrer dans le grand bain des journées de l'économie pendant 3 jours. Ça va être intense, vous allez devoir courir un peu de salle en salle. Vous savez qu'on a choisi il y a déjà un an comme thème cette année, reconstruire la confiance. On n'a pas des talents d'architecte du côté des économistes, mais je crois que c'est un véritable enjeu au moment où on nous parle de faire des réformes qui sont, je crois, difficilement acceptées et qui créent beaucoup de discussions. Il est bien de confronter les approches des économistes qui font des propositions en matière de réformes, les politiques qui devront, essayer de mettre en œuvre ce qui sera accepté ici au niveau des citoyens, et puis les acteurs économiques qui de toute façon devront créer la richesse qui nous permettront d'arriver à faire fonctionner toutes ces réformes normalement. Donc on est dans cette situation complexe et je pense que Mario Monti était vraiment le grand témoin idéal, parce que s'il y a un homme qui a essayé de porter des réformes, qui a été confronté à ce problème-là, et à la difficulté de reconstruire la confiance. Parfois, moi d'ailleurs, ça m'a surpris, parce que si vous regardez en Italie, il y a eu un niveau d'acceptation qui me semble très très élevé sur une situation qui est douloureuse. Je rappelle que les Italiens sont aujourd'hui dans une situation où leur PIB par habitant est plutôt celui du milieu des années 1990. Donc on vit un choc extrêmement important, et la question se pose aussi pour l'économie française, donc on va essayer de voir si on peut apporter des solutions. Donc je crois qu'en attendant que Mario Monti arrive tout près de nous, peut-être va-t-on lancer tout de suite la présentation du sondage ? Ah voilà. Ici. Je suis, donc, comme je le disais, très heureux d'accueillir Mario Monti, et comme je le disais, il a tous les pouvoirs puisqu'il est le grand témoin. Il peut arriver quand il veut et il peut aussi intervenir très très librement. C'est le seul qui a une espèce de liberté, un peu pour vous représenter aussi. C'est-à-dire que lui peut prendre la parole quand il souhaite, et s'il trouve qu'on dit des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt ou des choses très contestables, il sera totalement libre de pouvoir rectifier ce qu'on aura dit. Et donc, on va commencer par les résultats du sondage sur les Français et l'économie, qui a été réalisé ici par la Banque de France. Et c'est Patrick Haas qui va nous présenter les résultats de ce sondage.
Oui, bonjour à tous. Alors l'économie, c'est une matière qui est à la fois très familière et très étrangère à la fois. Et donc la Banque de France, qui est un partenaire fidèle de cette manifestation, a demandé donc à TNS Sofres de réaliser une étude quantitative sur les Français et l'économie. Alors le sondage est réalisé dans les règles de l'art. Je vous passe la méthodologie. Alors le sondage, il va montrer deux choses. D'abord des Français intéressés par l'économie, et ensuite des Français qui sont quelque peu inquiets sur la situation économique. Tout d'abord, des Français intéressés par l'économie. La première question, elle porte sur le niveau de connaissance des Français en économie. C'est en fait un niveau de connaissance qui est une auto-évaluation, et donc vous avez une appétence, une attirance pour la moyenne, mais il faut noter déjà que le nombre de Français qui se déclarent faibles en économie par rapport au total élevé est pratiquement 2 fois plus fort. Alors, quand on regarde en fait les résultats du sondage qui avait été fait l'année dernière, c'était une question sur le niveau de connaissance des Français, c'est-à-dire une projection. Vous avez quand même une large convergence entre l'image que les Français se font d'eux-mêmes et leur propre image. Alors, sur cet item, le deuxième bonne nouvelle, c'est en fait une question qui va porter sur l'intérêt et sur l'appétence des Français pour l'économie. Alors la question, vous intéressez-vous à l'économie ? Nous avons en fait une majorité des Français qui sont intéressés par l'économie. Cette réponse constitue une bonne nouvelle pour les journées de l'économie, également, on peut le penser peut-être pour l'économie française. Mais en fait, cet intérêt des Français est un peu clivé. Il y a un clivage par âge, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus on s'intéresse à l'économie. Donc vous avez un clivage avec une bonne corrélation entre l'intérêt pour l'économie et l'âge. Donc vous observez, les plus de 50 ans sont intéressés à près de 64%, et c'est moins le cas pour les jeunes. Il y a un deuxième clivage qui n'apparaît pas sur ce slide, qui est en fait un clivage par genre, c'est-à-dire que 60%, en fait 61% des hommes se déclarent intéressés par l'économie contre 48% des femmes, donc une question qui est relativement clivante. Je cite en passant que quand on pose la question « est-ce que vous vous intéressez à la politique ?», ces résultats sont très proches, c'est-à-dire que vous avez 56% des Français qui s'intéressent à la politique, donc une réponse très proche par l'intérêt pour l'économie, et dans le détail, on a les mêmes tendances que pour l'économie, donc un intérêt plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Alors comment est-ce que les Français, en fait, s'informent sur l'économie ? Dans quel, en qui ont-ils confiance ? Alors, parmi ces différents acteurs, donc vous le remarquez, le nombre de réponses est supérieur à 100, puisque les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses. C'est la presse économique qui apparaît comme la source d'information la plus digne de confiance pour s'informer sur la situation économique du pays, avec 51% des réponses citées, suivies des économistes, avec seulement 37%. Donc, une hiérarchie très nette et un léger décrochage des autres acteurs et sources d'informations. On peut noter que quand on regarde les sondages dans le détail, qui n'apparaissent pas sur ce graphe, les jeunes vont davantage s'informer sur les sites internet d'information économique. C'est également le cas des cadres et des catégories socioprofessionnelles les plus favorisées. Les Français sont donc intéressés par l'économie. Les Français s'informent de différentes manières. Et ils estiment, et là cette question est très largement consensuelle, hein, quand on pose la question sur est-ce que vous accorderiez une place plus importante à l'enseignement de l'économie dans le système éducatif français, nous avons en fait un large plébiscite, puisque 81% des Français sont pour le renforcement de l'économie dans le système éducatif français. C'est une question et un souhait qui transcendent très largement toutes les catégories de la population. Alors, où en est-on aujourd'hui dans l'état de l'opinion sur l'environnement économique ? En fait, le sondage fait apparaître que les Français sont quand même relativement inquiets face à leur environnement économique. D'abord, vous avez une inquiétude sur la situation des finances publiques. Cette inquiétude, elle n'est pas nouvelle. C'est une question barométrique qu'on avait posée l'année dernière, et qui fait apparaître un total d'inquiétude de près de 80%, en très léger retrait par rapport à l'année dernière, et c'est donc un niveau d'inquiétude qui est évidemment lié à l'actualité, et qui est également croissant en fonction de l'âge. Donc nous avons des Français inquiets sur la situation des finances publiques, sont-ils confiants sur la situation économique ? Alors, sur la situation économique, dans les 12 prochains mois, quel est le sentiment ? Eh bien, le sentiment dominant, il faut bien le dire, malgré l'inflexion positive des indicateurs de croissance, on oubliera les chiffres de ce matin, nous avons donc des Français qui sont une opinion publique qui reste teintée d'un sentiment de pessimisme, avec une majorité de Français qui pensent qu'elle va se dégrader. Et c'est une inquiétude qui est plus forte dans les classes modestes, à 57%, sans doute parce qu'ils sont plus affectés par la crise et la dégradation de la situation de l'emploi. Donc les Français sont un peu pessimistes. Ils sont toutefois confiants sur la situation du système bancaire français, qui est estimé solide par près des deux tiers des Français, donc même dans un environnement un peu complexe. Les Français perçoivent de manière encore très nette la pleine conscience, ils ont une pleine conscience de la solidité du système bancaire français, qui est beaucoup plus robuste que celui de certains de leurs voisins. Alors que pensent-ils du fonctionnement de l'économie marché ? L'avis des Français est partagé sur le fonctionnement de l'économie de marché. Parce qu'il faut bien dire que la faiblesse en économie, enfin le caractère un peu moyen des Français, se conjugue avec une méfiance envers les marchés. Donc ce sentiment, il est partagé. Vous avez une défiance qui est en fait assez importante. Ce sont les jeunes, quand on regarde les sondages dans le détail, qui est disponible sur le site des journées d'économie, sur le site de la Banque de France, ce sont les jeunes qui ont la plus grande confiance dans le fonctionnement de l'économie de marché, 53%, mais également les chefs d'entreprise et commerçants. Et les habitants de l'agglomération parisienne ont une confiance un peu plus forte que le reste de la population française, avec un niveau de confiance de l'ordre de 48%. Alors, que faire pour stimuler, si ce n'est la confiance, du moins stimuler la croissance? Alors, cette question est également une question barométrique. Alors, que faire pour stimuler la croissance économique? Eh bien, augmenter les petits salaires. Donc là aussi, on a un nombre de questions, donc des items. Vous avez droit à deux réponses. Augmenter les petits salaires apparaît toujours, en fait, comme la première réponse, mais suivie de la baisse des impôts. Alors, baisser les impôts enregistre une progression forte, de 9 points par rapport à l'année dernière. Je tiens à souligner que le sondage a été effectué à la mi-octobre, c'est-à-dire avant les événements récents d'actualité et les mouvements sociaux. Donc il est possible que le résultat, si on refaisait un sondage aujourd'hui, que baisser les impôts serait peut-être un peu plus forte. Ce sondage montre, bien entendu, aussi que les autres items commencent à être moins marqués. Quand on regarde dans le détail, par profession, les réponses sont un peu auto-centrées, c'est-à-dire que ce sont les ouvriers à 69% qui sont pour augmenter les petits salaires, suivis des employés. Les jeunes de moins de 35 ans priorisent en fait la baisse des impôts. Les diplômés de troisième cycle, ils placent en premier la stimulation de la recherche et de l'innovation. Et quand on regarde une césure homme-femme, en fait la question est un peu clivante. Les femmes sont à 50% pour baisser les impôts et les hommes seulement à 40%. Voilà l'essentiel des sondages et je laisse la parole à ces prestigieux orateurs. Merci de votre attention.
Merci Patrick. À signaler, moi, une chose qui m'a frappé dans le sondage, c'est que l'économie exprime vraiment un clivage entre les hommes et les femmes. Les réponses sont très différentes. Les hommes semblent plus intéressés que les femmes par l'économie. Mais par contre, les femmes sont au moins sur un point très très intéressant. Elles ont plus confiance dans les économistes que les hommes. Je ne sais pas comment on peut articuler ces deux réponses, mais réellement, il y a des grandes différences tout le long du sondage. Je trouve que ça exprime bien peut-être une difficulté aussi de ces questions économiques qui certainement sont clivantes entre les hommes et les femmes. Un des grands problèmes, par contre, dans ce sondage, c'est la faible confiance dans l'Europe. Quand on regarde ce qu'il faudrait faire pour stimuler la croissance, eh bien, très peu de Français croient en la possibilité de renforcer l'intégration européenne. Et bien évidemment, je me tourne vers M. Mario Monti, qui a une expérience en la matière irremplaçable. Il nous semble inquiétant que les Français, finalement, dans leur grande majorité, ne pensent pas que l'on puisse trouver une stimulation de la croissance du côté du renforcement de l'intégration européenne. Est-ce que ce sentiment est partagé en Italie et est-ce que vous avez, vous, une explication à cette défiance des citoyens vis-à-vis de l'Europe ?
Bien, merci beaucoup. Je souhaite m'excuser, mais pas vraiment m'excuser pour mon retard. Ce n'était pas un retard, c'était une première manifestation visible que j'ai souhaité donner de mon statut de grand témoin, donc de quelqu'un qui peut mettre en désordre le déroulement de la séance. Je suis évidemment très très ravi d'être ici et une seule remarque légère encore, j'ai constaté sans beaucoup de surprise que chez les Français l'intérêt pour l'économie est un peu comme le bon vin, il améliore avec l'âge, ce qui me laisse beaucoup d'espoir encore pour la vie adulte que j'ai face à moi. Sur la question de l'intégration, est-ce que plus d'intégration européenne peut apporter plus de croissance? Je crois que de cette question, qui est très intéressante, on ne pourrait pas en déduire une méfiance de cette question elle-même, une méfiance des Français vers l'intégration européenne, mais effectivement de tous les aspects qui peuvent être liés à l'intégration européenne, celui de la croissance en ce moment avec les politiques en cours n'est pas le plus évident. Donc j'ose espérer qu'il y ait beaucoup de Français en faveur d'une intégration européenne plus poussée, et j'espère aussi d'un rôle plus poussé que dans ces années-ci de la France dans le guide de l'intégration, et qui pourtant ne voit pas l'intégration européenne comme un pilier de la croissance. J'ai quelques remarques ultérieures, mais j'imagine plus tard ou comme vous le souhaitez.
Comme vous le souhaitez. Peut-être par rapport à l'Italie, est-ce que vous êtes surpris par les réponses que font les Français quand on les interroge sur l'économie ?
Oui, un peu par les réponses, et dans un cas, et je souhaitais en tout cas féliciter la Banque de France pour son exercice, mais dans un cas pour les questions qui sont posées, c'est-à-dire le précédent, donc quels sont... Quels sont les moyens pour augmenter la croissance économique? Voilà. Augmenter les petits salaires, baisser les impôts. Il me frappe un peu que parmi les questions posées par la Banque de France, il n'y ait pas les réformes structurelles. Donc, si on posait cette question aux Italiens, je crois qu'ils seraient en partie surpris, mais peut-être en partie soulagés de ne pas voir les réformes structurelles comme... je crois que, par exemple, en Italie, on poserait la question, croyez-vous qu'un fonctionnement un peu plus efficace et efficient des marchés pourrait contribuer à la croissance ? Je ne vois pas la question posée ici. Pour le reste, c'est très surprenant et beaucoup en Europe diraient très positif que seulement le 2% des Français s'expriment dans le sens que l'augmentation des dépenses publiques pourrait stimuler la croissance. De l'autre côté du Rhin, on penserait plutôt que c'est 98% des Français qui penseraient ça.
Donc, on pourrait faire aussi un sondage sur la vision des Français en Europe. si l'Europe est en effet un peu la perdante des solutions, il y a une autre catégorie perdante aussi. Ce sont les politiques et quand on regarde le sondage, il me semble qu'il est assez évident que la confiance dans les politiques pour s'informer sur la situation économique est faible. Et je pense que, alors qu'on discute des grandes réformes, justement, du fait qu'il va falloir, je pense, créer ici une dynamique avec les citoyens, les politiques ont un chantier qui me semble énorme, non ?
Bien sûr. Je voudrais d'abord consoler Stéphanie Pay en lui disant que les banquiers sont juste devant les élus politiques, mais que quand même, on n'aurait peut-être pas forcément attendu cela il y a 2 ou 3 ans. Donc vous avez déjà franchi un premier stade. Et donc évidemment, pour les élus...
On peut vous donner des recettes, si vous voulez.
Pour les élus politiques, il y a un peu de travail. Moi, je pense que le thème des journées de l'économie est un thème extrêmement important qui avait été choisi, Pascal Lemerre le disait, il y a un an, mais qui s'applique évidemment très très fortement à la situation actuelle. Reconstruire la confiance. Et donc cela a à voir avec la perception qu'ont les Français sur les élus politiques. À l'évidence, on le voit sur cet élément de question, la confiance des Français dans les élus politiques, elle est à peu près nulle aujourd'hui. Et donc, le premier point pour pouvoir, évidemment, reconstruire la confiance, c'est peut-être que les élus politiques fassent un peu d'autocritique et essayent de s'interroger pour savoir pourquoi, effectivement, ils sont aussi bas dans les sondages. À mon avis, pourquoi ils sont aussi bas dans les sondages, c'est parce que les Français perçoivent bien qu'entre le discours politique et la réalité économique, il y a quelquefois un décalage qui est fantastique. Et donc, je pense que si on veut reconstruire la confiance, il faut d'abord avoir le courage de dire ce qu'est la réalité économique. Et que c'est à partir du moment où on aura dit ce qu'est la réalité économique que l'on pourra d'abord faire un constat partagé et puis ensuite essayer de proposer des solutions pour l'améliorer. Tant que cette action-là n'est pas faite, évidemment, les Français ont tendance, de manière assez légitime, à ne croire à rien. Et donc, à partir de là, le problème de la confiance se pose. La confiance est brisée, on le voit bien aujourd'hui. On n'a plus confiance dans personne, à peu près. Et cela pose un problème fondamental. Vous avez peut-être entendu ce matin une information qui provenait de la Banque publique d'investissement qui était sur le pessimisme des Français. Et on voit le pessimisme dans d'autres éléments du sondage d'aujourd'hui. 47%, je crois, des Français qui pensent que dans l'avenir, la situation va être encore pire. Et donc la BPI disait que ce pessimisme des Français coûtait un point de croissance à peu près. Donc, tout me semble lié. Il faut, pour repartir de l'avant, qu'il puisse y avoir une restauration de la confiance dans ce pays. Donc, dire les choses telles qu'elles sont, même si, évidemment, elles sont un peu désagréables à un moment donné, parce que si la situation économique de la France était, évidemment, une situation facile, les problèmes ne se poseraient pas. Et donc, il faut essayer de reconstruire cette confiance. Parce qu'on voit bien que l'économie en dépend. Si les Français n'ont pas confiance, les consommateurs consomment moins, ils épargnent. Les chefs d'entreprise retardent leurs décisions et disent, bon, on verra plus tard quand il y aura un peu d'embellie économique. Et donc, tout cela fait que l'on est dans un cercle vicieux qui fait que, finalement, la crise de confiance alimente le pessimisme qui, lui-même, alimente le fait que les résultats économiques ne sont pas à la hauteur. Or, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il suffirait de très peu de choses pour que les choses repartent de l'avant. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le directeur de la Banque de France, à qui je demandais donc les chiffres. On est aujourd'hui sur le chiffre qu'on annonçait ce matin de moins 0,1 pour le troisième trimestre, mais parce qu'on avait eu un deuxième trimestre exceptionnellement haut, avec plus 0,4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur une pente où le plus gros de la crise est un peu derrière nous, où il faut essayer de repartir de l'avant. Alors, c'est vrai que Mario Monti parlait des réformes de structure. Il disait qu'elles ne sont pas dans le tableau. Je pense qu'il faut aller vers des réformes de structure, parce que c'est comme ça, effectivement, que l'on peut abaisser la dette publique, qui reste quand même considérable, donc alléger notre économie, le poids des prélèvements obligatoires dans notre pays, et permettre donc à ce que le problème central de notre pays, qui est aujourd'hui son manque de compétitivité, puisse petit à petit être résolu et que nous puissions repartir de l'avant. En tout cas, moi je veux dire à Pascal Lemerrer, ces journées de l'économie sont quelque chose de fantastique. C'est vrai que c'est la sixième édition. D'édition en édition, on a, je crois, accru à la fois le nombre des intervenants et puis leur qualité, avec une diversité de points de vue. C'est important qu'il y ait cette diversité de points de vue. Mais en même temps, quand on regarde bien le discours de la plupart des économistes, on voit bien quand même qu'il y a un tronc commun et que, très largement, il y a un partage sur la conception que les uns et les autres ont
de ce qu'il faudrait faire pour repartir de l'avant. Alors si des journées comme celle-ci peuvent permettre à la fois à nos concitoyens, mais en même temps aux dirigeants politiques, de pouvoir voir qu'il y a un certain constat partagé, et donc que les solutions à mettre en œuvre, on les connaît, et qu'il faut juste avoir la volonté de les mettre en œuvre, eh bien, ça sera pas mal.
Merci beaucoup. Je crois que Mario Monti souhaiterait intervenir.
Juste pour faire remarquer que effectivement le niveau de confiance vers les économistes me paraît très haut. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays il serait aussi haut. Et donc les économistes et la presse économique, donc les deux grands acteurs qui animent ces journées, sont très bien placés dans le tableau de la confiance dans ce pays. Et j'imagine que cela devrait être un espoir pour l'avenir. En Italie, les économistes sont peut-être plus souvent qu'en France appelés à gérer directement le pays, mais je ne suis pas sûr que le degré de confiance de nos concitoyens soit aussi grand qu'en France.
Pourtant, nous admirons nos collègues italiens, spécialement à l'université de Bocconi. Dans ce sondage, il y a aussi quelque chose qui doit intéresser Stéphanie Pay, qui est la présidente de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'est que quand on regarde les banques, eh bien, les Français sont, je trouve, très confiants. Ils pensent que le système bancaire français est solide. Et j'ai l'impression que si on regarde les différents sondages qu'on avait faits, ils ont confiance dans leur banque et surtout plus ils sont près de leur banque. Souvent, c'était leur agence et le rôle très direct que le banquier peut avoir vis-à-vis d'eux.
Alors, oui, Pascal, avant de vous répondre sur ce sujet-là, moi, ce qui m'a frappé dans le sondage sur le sujet de la dette publique, c'est la faiblesse on a l'impression que les jeunes ne se sentent pas concernés. Quand on analyse en détail par tranche d'âge la préoccupation sur la dette publique, voilà. Et je pense que c'est un vrai sujet pour eux, parce qu'on est quand même en train de leur laisser une montagne de trucs qu'il va falloir payer et qu'il va bien falloir financer. Et je pense que c'est un des vrais sujets quand même. On a demandé aux entreprises de signer des contrats emploi génération, ce qu'on essaye de faire par la négociation, le mieux possible. Je pense qu'au niveau de la nation, il y a un vrai sujet sur la solidarité intergénérationnelle autour de la dette. Bon, c'était ma remarque personnelle, mais voilà, ça n'engage que moi, bien évidemment. Alors, pour répondre à votre question, je pense quand même que et en écho à ce qu'a dit Monsieur le Sénateur Maire, je pense que la confiance, elle se bâtit sur des actes. Et il y a 5 ans, la planète bancaire et financière a subi un véritable tsunami auquel personne ne s'attendait. Enfin, on n'imaginait pas qu'une grosse banque américaine puisse faire faillite. Il y en a eu d'autres depuis, même si pendant la crise de 1929, il y avait des banques qui avaient fait faillite. Je pense que ce qui s'est passé entre 2008 et probablement 2010-2011, c'est que les Français, globalement, étaient en colère contre le système bancaire, mais avaient pris conscience quand même qu'en France, le système bancaire avait tenu bon. Ça, c'était la première chose. Et puis, progressivement, le système bancaire français a démontré que pendant toute cette période de perturbation économique, parce qu'entre 2008 et 2000, et maintenant, on a eu des phases de décroissance très fortes, des phases de reprise plus ou moins molles, puis de redécroissance. Finalement, la distribution de crédit bancaire aux entreprises a toujours été supérieure au taux de croissance. Elle a même été positive en 2009, alors qu'on connaissait une véritable récession. Et c'est un phénomène qui est assez isolé en Europe. Quand on regarde nos amis allemands, la récession du crédit bancaire a été plus forte que la baisse de la croissance. Ça, c'est quelque chose qui est très marquant. Et quand on regarde à l'échelle du temps, la situation a été très, très différente entre ce qui s'est passé entre la crise de 1993, où là, il y avait une vraie contraction du crédit bancaire, un vrai credit crunch au moment de la crise, qu'on n'a pas retrouvé cette année. Donc je pense qu'à l'épreuve des faits, à savoir que le système bancaire continuait à faire son office, c'est-à-dire à alimenter la machine, alors de manière plus ou moins forte selon effectivement, quand un chef d'entreprise n'a pas de vraie perspective de débouché de marché, il va pas investir, voilà, il va même pas remplacer forcément ses investissements productifs. Donc avec des creux et des bosses, mais ça me paraît très important. Et puis après, la banque en France, que ce soit la banque qui s'adresse aux particuliers ou la banque qui s'adresse aux entreprises, c'est une banque qui est basée sur un élément qui est essentiel, c'est la confiance, la relation de confiance qui est établie entre le banquier et son client. Et donc finalement, même pendant la période de fort désamour qui est intervenue au début de la crise, finalement, si les Français n'aimaient pas les banques, ils avaient quand même confiance dans leur banque et ils continuaient à aimer leur banquier. C'est-à-dire leur banquier, c'est la personne physique comme vous et moi qui est dans l'agence de proximité et qui les connaît et qui va essayer de bien les conseiller. Donc c'est finalement relativement ambivalent. Bon, cela étant, quand on regarde le sondage global sur d'autres éléments, le niveau de confiance est effectivement un tout petit peu supérieur à ceux des élus, mais enfin, il est quand même pas très très important. Quand on regarde en qui les Français ont confiance pour leur parler d'économie, les banquiers arrivent complètement en bas de tableau, ce qui est absolument dramatique. Pour moi, c'est absolument dramatique la vision qu'ont les Français. On est quand même un peu au cœur de l'économie quand on est une banque. Et de ne pas nous considérer comme un acteur du contenu au débat économique me paraît un peu triste. Mais bon, je suis plutôt quand même satisfaite pour ce sondage. Et sur la solidité des banques, pour terminer par ça, je pense que les banques françaises ont bien résisté à la crise. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais l'ensemble des banques européennes est rentré dans une phase d'analyse extrêmement détaillée qu'on appelle l'Asset Quality Review, qui est vraiment l'analyse de tous les actifs de toutes les banques européennes, 17 banques européennes, 17 régulateurs. Donc je pense qu'il y a un petit sujet de méthode quand même, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit complètement d'accord. Mais bon, en tout cas, un grand examen dont on aura les résultats à la fin de l'année prochaine, enfin en octobre 2014, juste avant la mise en place de la régulation bancaire européenne, qui est quand même une avancée qui me paraît extrêmement significative. Donc les banques françaises sont solides, je le pense. Alors il faudra que la QR nous le démontre, mais je pense qu'elles sont solides. Elles ont continué à prêter, elles ont continué à faire leur boulot, elles continueront à faire leur boulot. Et donc je crois qu'il faut conforter cette idée que les banques sont un acteur majeur de l'économie et que les Français ont raison d'avoir confiance en nous.
Merci. Savoir qu'il n'y a pas de rationnement du crédit pour les entreprises à faire plaisir à Patrick Artus, qui en plus nous montre qu'il peut y avoir des économistes dans les banques qui ont quand même pas mal de pédagogie. Je pense que les banques aujourd'hui sont aussi présentes tout à fait avec des économistes pour parler d'économie à tout le monde. Donc il y a d'espoir de ce côté-là. Par contre, j'en vois un peu moins dans le sondage sur la vision des Français, c'est vrai, qui s'inquiètent d'un côté de la dette publique avec l'impression qu'elle dérape, et en même temps, ils trouvent que l'économie de marché ne fonctionne pas bien. Et je pensais peut-être que là, Jean-Louis Gagnaire aurait des idées à avancer, puisqu'en fait, on est dans une véritable impasse. J'ai comme l'impression que les Français disent l'État, ça va mal, le marché, ça ne va pas mieux. Les économistes ne savent pas très bien quoi mettre entre l'État et le marché quand ni l'un ni l'autre ne pourrait fonctionner correctement. Donc je me demandais si Jean-Louis Gagnère, député, vice-président de la région, avait quelques idées qui nous permettraient de relancer cette croissance économique française avec ces deux rouages qui, visiblement, pour tous les Français, sont actuellement dans une situation quand même particulièrement difficile.
Oui, je crois qu'on vit tous avec nos contradictions, les politiques et tous nos concitoyens. Donc on veut une chose et son contraire. On veut à la fois des services publics plus efficaces, payer moins d'impôts, on veut des écoles pour ses enfants, madame la rectrice, et en même temps, ça a un coût quand on crée 60 000 postes d'enseignants, ça a un coût pour le budget de l'État. Et donc, c'est la même chose avec les hôpitaux. Quand on prend service par service, d'ailleurs, il n'y a pas de contestation de principe. Alors, le sondage est très impacté par la réalité que vivent un certain nombre de nos concitoyens sur la question des petits salaires, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique, puisque les salaires, en réalité, ont baissé. Et le pouvoir d'achat a baissé compte tenu des augmentations de cotisations retraite, des impacts des impôts. Et donc, il est clair qu'il y a un vrai sujet. Il doit y avoir un pacte sur la question de la rémunération de ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Avec une contestation, elle n'apparaît pas dans le sondage, mais on entend aussi, quand on est politique, parce qu'on n'est pas complètement, on vit pas en vase clos, c'est la question de celui qui vit de son travail et celui qui vit des revenus de transfert. Il y a une forte contestation du système de solidarité dans le pays. C'est ce qu'on voit apparaître quand même à travers les différents mouvements avec les bonnets de toutes les couleurs. C'est une contestation très forte envers les revenus de transfert. Moi, je travaille, donc je dois vivre de mon travail. Et ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui travaillent moins que moi, eh bien, ils ne doivent pas avoir autant que moi. Ça, c'est quelque chose qui alimente quand même certains partis politiques et auxquels on doit veiller parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations assez difficiles assez vite, hein, puisque certaines formes de poujadisme peuvent quand même mener le pays au bord de la crise. Donc il est clair que les fruits de la croissance doivent être correctement partagés. Il y a même un ancien président de la République qui disait un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Donc un tiers pour les salaires, un tiers pour la rémunération des actionnaires et un tiers en investissement dans les entreprises. C'est clair que contrairement à un pays comme l'Allemagne qui a su avoir un pacte, hein, même si bon, tout n'est pas parfait dans ce pays, d'autant qu'il est quand même un peu stigmatisé aujourd'hui, à juste raison, par la Commission européenne, on voit qu'il faut qu'il y ait un partage équitable et des efforts et un partage équitable des bénéfices de ces efforts. Et baisser les impôts, bon, c'est vrai que lorsque vous avez choisi les thèmes et lorsque vous avez fait le sondage, on n'en parlait pas avec la même acuité. Bon, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché au Parlement. Moi, j'étais de ceux qui disaient, je siège à la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qu'on devait expliquer correctement aux Français quelle était la situation exacte du pays et quels étaient les efforts qu'on allait demander à tous en n'essayant pas de faire croire que 9 dixièmes des Français seraient exonérés des efforts. Je crois qu'il y avait, tout le monde était prêt à prendre une partie de la charge à condition qu'on sache pour combien de temps et qui allait participer et quels allaient être les effets réels sur la situation du pays. Je ne veux pas faire référence au New Deal parce que c'était quand même des circonstances assez particulières et Roosevelt a réussi à imposer des taux d'imposition à 75% sur les très hauts revenus parce qu'il y avait la nécessité de relever les États-Unis dans une crise majeure et ces taux d'ailleurs ont perduré et même ont été augmentés par-delà la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait les efforts de reconstruction, les efforts de guerre. Et donc dès lors qu'on joue le jeu de la vérité et qu'on balise le terrain en disant voilà, cette année, l'objectif c'est de faire ça. On va essayer de renforcer les rémunérations pour les bas revenus. Bon, je le dis par exemple, moi je n'ai pas voté la suppression du jour de carence dans la fonction publique. J'avais le rapport l'an dernier sur la fonction publique. Je pense qu'il fallait relever les bas salaires de la fonction publique plutôt que de rétablir le jour de carence. Le jour de carence, c'est le jour qui est enlevé aux fonctionnaires lorsqu'ils sont absents pour raison maladie. On en connaissait les effets bénéfiques. Ça évite l'absentéisme perlé. C'est se moquer des fonctionnaires. Je le dis, c'est se moquer des fonctionnaires. Parce que tous ceux qui sont à leur travail tous les jours, ben, ils ne sont pas bénéficiaires dans ce système. Il valait mieux trouver des systèmes d'attribution de points supplémentaires. Une revalorisation générale est impossible aujourd'hui, il faut le dire aussi. Mais il fallait effectivement soutenir les bas salaires dans la fonction publique qui sont rattrapés par l'augmentation du SMIC systématiquement, y compris sur les fonctionnaires de catégorie B. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Les Français appréhendent assez bien les enjeux macroéconomiques. Quand on rentre dans l'opérationnel, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et il n'y a rien d'étonnant. Enfin, je faisais remarquer à mon voisin que finalement, ceux envers qui les Français ont plus confiance, ce sont ceux qui commentent l'économie, ce n'est pas ceux qui la font. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez peut-être particulier au niveau français. Alors, les chefs d'entreprise la font, site internet d'information économique, bon, ça, c'est vraiment dans le commentaire. Les banquiers, les élus politiques font quand même l'économie, interviennent sur le champ économique, pour le meilleur et pour le pire, sans doute. Et s'agissant des élus politiques, je pense que il y a un déficit d'explication. Bon, moi, en tant que député, je suis amené à faire des réunions très régulièrement, quartier par quartier. C'est un travail de fourmi qu'il faut faire, expliquer les grands enjeux. Tout le monde ne se sent pas forcément concerné, mais j'ai observé quand même dans les périodes récentes que quand même, on arrive à répondre à un certain nombre de questionnements. Mais aujourd'hui, la politique, ça se résume trop souvent à 140 signes sur Twitter. Et moi, je veux bien qu'on fasse de l'élaboration de la pensée avec 140 signes. Ça risque d'être un peu court quand il s'agit d'expliquer les grands enjeux, de dire comment les uns et les autres sont concernés, qu'est-ce qui va se passer, comment on peut résoudre les phénomènes. Et donc voilà, le développement de la pensée, c'est beaucoup d'efforts et c'est quand même des raisonnements longs avec quand même beaucoup d'incertitudes, parce que croyez bien que si on connaissait la solution magique, il y a longtemps qu'elle aurait été employée.
Se préparer à des raisonnements longs, c'est normalement le rôle de l'éducation nationale. Je me tourne vers Madame la rectrice, Madame Françoise Moulin-Civil. Quand on regarde le sondage, ça revient d'ailleurs tous les ans, hein, les sondés disent que la place de l'enseignement de l'économie dans le système éducatif est insuffisante. D'un côté, je ne sais pas si avec cette grande maison qu'est l'éducation nationale, on voit s'il y a des innovations. Elles ne sont pas forcément rendues visibles, portées, donc il y en a peut-être un certain nombre. Et puis, il y a peut-être surtout des choses à faire, ce qu'on pourrait faire évoluer. Et là, vous êtes sur mon terrain favori, puisque les journées de l'économie étaient une manière de rêver un peu de les choses que l'on pourrait faire.
Non, mais bien sûr, j'ai été sensible à cette partie-là du sondage. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les choses ne sont pas assez visibles. Je vais tâcher de les rendre visibles rapidement ce matin. Au-delà des disciplines qui sont enseignées, qui sont évidemment relèvent de l'appréhension, de la compréhension de l'économie, voilà, les sciences économiques et sociales, l'économie-gestion, il y a aussi des disciplines senties comme plus latérales qui abordent aussi ces questions, comme l'histoire-géographie, comme d'autres disciplines. Je ne vais pas toutes les citer. Je crois que l'éducation nationale, très récemment, voilà, s'est appuyée vraiment sur trois leviers pour essayer de renforcer cette connaissance du monde économique. Là, le premier levier, c'est vraiment l'importance qui est donnée désormais à ce que l'on peut appeler la culture, la place de la culture économique dans l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire celui vraiment qui touche tous les petits Français, j'allais dire depuis l'école jusqu'au baccalauréat. Alors on le sait, les disciplines économiques sont surtout enseignées à partir de la seconde et de la première. Bon. Mais avant, on s'y intéresse et on essaie d'intéresser les petits Français à cette culture économique. Alors c'est évidemment à travers de grandes thématiques, comme par exemple l'environnement, le développement durable ou les programmes d'histoire-géographie au collège, voilà qu'on élabore déjà une réflexion sur l'aspect économique des sociétés humaines. Vous le savez aussi, on a mis en place un socle commun de connaissances, de compétences et de culture aujourd'hui, voilà, qui oriente les enseignements et qui s'intéresse de très près, naturellement, à l'économie. En particulier, il y a deux grands domaines de compétences voilà, qui construisent cette connaissance ou qui contribuent à construire cette connaissance de l'économie. C'est le domaine des compétences sociales et civiques, qui implique de connaître non seulement des notions juridiques, mais aussi des notions économiques et budgétaires de base. Et un deuxième domaine, c'est celui qui concerne l'autonomie et l'initiative, eh bien, qui implique de se familiariser en particulier avec l'environnement économique, les entreprises, les métiers, et qui implique en particulier l'encouragement des initiatives. Alors, on peut sans doute encore aller plus loin dans la découverte du monde économique. Alors, ça ne se sait peut-être pas, mais vient d'être mis en place le Conseil supérieur des programmes, c'est une de ses missions, précisément, de favoriser cette connaissance. Et ce conseil a été missionné en particulier pour travailler sur l'élaboration d'un parcours individuel, alors d'information, d'orientation qui existait déjà, mais on lui a rajouté un petit item qui a son importance, qui est de découverte du monde économique et professionnel. Et c'est bien le signe, évidemment, de la volonté de relier l'école et le monde économique. Le deuxième levier sur lequel s'appuie l'éducation nationale, c'est bien cette création du lien entre élèves et monde économique. Et bien, ça fait longtemps, et vraiment, je pense que... alors, c'est peut-être pas encore assez visible, mais il me semble qu'on devrait le savoir, que l'entreprise... et le monde professionnel ne sont plus des inconnus pour le monde scolaire. Je crois que voilà, ce ne sont plus deux mondes qui se regardent évidemment en chien de faïence. Je crois que vraiment on a dépassé ce stade-là. Au collège, par exemple, eh bien, tous les élèves de 3e ont désormais une séquence d'observation en milieu professionnel de façon à entrer évidemment dans le concret de l'activité économique. Donc, je donne cet exemple-là parce qu'il est quand même assez frappant. On a aussi toutes les actions que mène la mission École Entreprise depuis plusieurs années et qui évidemment contribue à cette connaissance mutuelle des deux mondes, et un grand nombre de professeurs vraiment développent des partenariats extrêmement efficaces entre leurs établissements et le milieu économique local. Et le troisième et dernier levier sur lequel je veux insister, c'est vraiment la volonté de travailler sur les voies de formation. Alors, je crois que vraiment que l'école a un rôle à jouer et joue un rôle dans le combat pour la croissance et le combat pour l'emploi. En particulier dans le cadre vraiment du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, eh bien, l'éducation nationale veut offrir aux jeunes des formations tournées vers l'emploi et l'avenir. En particulier, la loi pour la refondation de l'école a créé, ça c'est une nouveauté sur laquelle... Voilà, je veux faire toute la lumière ce matin, à créer des campus, des métiers et des qualifications qui s'appuient sur un partenariat vraiment très fort entre académie et région. Il s'agit vraiment de structurer une offre de formation dynamique qui relie évidemment tout type d'établissement, pas simplement des lycées professionnels, tout type d'établissement dans le cadre local pour favoriser l'innovation et la compétitivité. Dans cette optique, je voudrais aussi rappeler l'installation toute récente du Conseil national éducation-économie. Il a été inauguré il y a quelques jours, qui me semble aller dans le sens que nous appelons tous de nos voeux, qui va instaurer un dialogue permanent entre le monde économique et le monde éducatif. Voilà, pour conclure, je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ces journées de l'économie parce qu'elles constituent vraiment une occasion annuelle, certes, mais tout à fait unique de rencontre entre le monde scolaire et le monde de l'économie à travers les ateliers pédagogiques en particulier, qui sont destinés aux professeurs, puis l'invitation aussi de classes entières qui viennent assister à des conférences. Je crois savoir qu'il y a près de 3000 élèves qui sont inscrits à ces journées, ce qui est évidemment un signe fort et le signe que l'école s'intéresse de près au monde économique et au-delà de ça à la pensée économique. Voilà, ce n'est pas simplement une affaire de spécialistes. L'éducation nationale essaie vraiment d'être partie prenante de ces journées. Je vous en remercie.
Merci.
Et déjà, on a été introduit aux relations entre l'éducation nationale et les entreprises, où un certain nombre d'initiatives ont été ici évoquées. Je crois que ça serait intéressant avec Philippe Griot, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, de voir un peu quelle est l'approche des entreprises, des chefs d'entreprise, puisque finalement le sondage nous dit que les Français, eux, sont très pessimistes. Ceux qui sont actuellement à la manœuvre, très directement, quelle vision apparaît ? Est-ce qu'il y a une éclaircie ?
Je ne sais pas si on peut bien parler d'éclaircie, mais ce que je voudrais d'abord dire par rapport au sondage et aux résultats de cette enquête d'opinion, c'est qu'il y a trois éléments qui me rassurent. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup d'innovation et beaucoup d'internationalisation. Et je crois que là, on sait bien dans nos entreprises que celles qui innovent et celles qui exportent se portent mieux que celles qui ne le font pas. Puis le troisième élément qui me donne vraiment une bouffée d'optimisme, c'est que seuls 2% des sondés s'imaginent qu'on peut redresser l'économie en augmentant les dépenses publiques. Et ça me fait effectivement plaisir, parce qu'à la fois, on ne peut pas être schizophrène au point de vouloir réclamer des économies de la pression fiscale, et puis derrière, empiler les couches de millefeuille pour faire en sorte que ça coûte encore de plus en plus cher. On est dans un pays qui est un pays qui, malheureusement, et ça c'est le thème de votre et de notre GECO de cette année, restaurer la confiance. Moi, j'associerai à la confiance le mot courage. Et je pense que nous sommes malheureusement pas suffisamment courageux. Et un pays qui n'est pas suffisamment réformateur, très conservateur, et qui a du mal finalement à mettre des actes en face de propos et de paroles. Et je crois que c'est ça qui finalement pénalise le redressement économique de ce pays. Comme le disait Gérard Collomb, on n'est pas loin finalement de frémissements qui nous autorisent à penser effectivement que le plus difficile est derrière nous et que l'avenir va s'éclaircir. Sauf qu'il faut franchir ce pas, et pour franchir ce pas, il faut du courage, il faut effectivement innover, inventer des processus nouveaux, et puis faire en sorte que nous puissions eh bien, ensemble trouver des moyens de mutualisation d'efforts, trouver des moyens qui nous permettent de faire des économies. Le conservatisme dans ce pays est malheureusement un frein, et c'est effectivement avec le pessimisme ambiant. Hein. On sait très bien que le français, par nature, est pessimiste, et on le voit bien dans les sondages qui sont ces sondages-là. C'est vrai qu'avec ces défauts, on ne peut pas tirer l'économie par le haut. Il va bien falloir un moment ou un autre qu'un certain nombre de leaders prennent leurs responsabilités et que le courage dont on parle en permanence soit effectif pour réussir ces opérations. Alors, ce qui est intéressant dans ce pays, encore une fois, c'est la diversité des régimes économiques selon les régions. Nous, ici, en région Rhône-Alpes, on est plutôt les enfants gâtés du système. Nous sommes dans une région qui est une région prospère, qui est leader dans l'industrie, et Dieu sait si les efforts que nous faisons les uns et les autres, et ensemble, car cette alchimie dont je parle souvent entre le monde économique que nous représentons, les collectivités locales et territoriales, le monde de l'enseignement, hein, puisque nous sommes nous-mêmes chambre de commerce propriétaire de M Lyon, mais on travaille, et Bernard Sinoux qui se cache derrière l'écran, et quelqu'un qui travaille beaucoup dans la Fondation pour les universités et qui nous aide beaucoup finalement à cohabiter, à travailler ensemble et à imaginer des systèmes de développement ensemble, plus la dimension citoyenne que nous donnons à nos institutions pour faire en sorte de ne laisser sur le bord de la route que très peu de personnes. Tout cela concourt à un microcosme particulier, à un écosystème particulier qui fait la richesse et la fierté de notre région. Mais il y a d'autres régions qui sont beaucoup moins bien loties que nous. Et c'est vrai que, à mon avis, dans les sondages qui sont les sondages ici, on a la totalité justement du spectre de ce que l'on peut voir au niveau national. Si l'on faisait un sondage purement métropolitain, lyonnais, grande métropole lyonnaise ou rhône-alpine, on aurait des résultats qui seraient, à mon avis, bien plus intéressants. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que quand on parle de frémissement, on est dans un système à l'heure actuelle où effectivement les entrepreneurs ont envie, investissent en énergie, en courage et en risque. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour le développement de nos économies. Mais quand on regarde un peu, puisque là, on est entre Français, les sondages sont entre Français, nous sommes en train de nous regarder un petit peu les uns les autres fonctionner dans nos habitudes. Je dînais hier soir avec le président Monde d'Intercontinental, que Gérard Collomb avait reçu dans la journée. C'est 4500 hôtels de grand luxe dans le monde, c'est plusieurs dizaines de milliers de salariés. Et je lui demandais la perception qu'ont les étrangers de notre pays. Eh bien, ce pays a des qualités exceptionnelles, de dynamisme, de ressources, et heureusement qu'elle en a, car elle serait à genoux depuis longtemps si nous n'avions pas justement toutes ces ressources. Mais les grands défauts que l'on nous trouve, justement, c'est l'absence de décision, c'est le manque de courage, et c'est l'absence de volonté, finalement, de faire évoluer les systèmes. Je crois que on peut s'en sortir très rapidement, pour autant qu'on donne quelques signes forts, non pas à nous qui sommes les aînés du système et qui avons déjà quelques heures de vol et qui en auront encore, j'espère, quelques autres, mais à tous ces jeunes qui sont ici. Ces jeunes, c'est l'avenir de notre pays, c'est le système éducatif qui les forme, c'est les entreprises qui les accueillent, c'est la richesse de notre pays demain, et c'est justement au travers de ces jeunes que nous devons espérer dans notre pays. Mais pour que ces jeunes puissent espérer, il faut qu'ils reprennent confiance, c'est le thème de nos GECO, mais il faut qu'on leur donne confiance par des actes forts qui nous permettront de montrer à ces jeunes que finalement le pays a de l'avenir, que les dirigeants, à tout niveau qu'ils soient, ont envie effectivement d'évoluer, ont envie de les faire évoluer, de leur préparer un avenir qui soit un peu plus serein et un peu plus optimiste que celui que nous avons à l'heure actuelle.
Merci, et je retiens que Philippe Griot nous propose un sondage régional pour l'année prochaine, que je n'oublierai pas. écoutez, on arrive au terme. Je pense que peut-être Mario Monti, avec tous ces propos, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'impose à vous sur les idées qu'on a évoquées, les différentes pistes, par rapport à ces Français que l'on dit toujours très pessimistes?
En effet, si on regarde la France de l'Europe, on voit un pays qui a un potentiel immense, mais qui se auto-freine un peu. Parce que c'est un pays qui, en ce moment, n'est en première ligne en Europe, ni en termes de discipline budgétaire, ni en termes de réforme structurelle, ni en termes, et cela est une nouveauté et pas positive, de protagonisme politique dans la construction européenne. Donc je me suis souvent demandé quelle est la clé qui pourrait déclencher une prise de conscience plus poussée, plus aiguë et un nouveau activisme à tous les niveaux. Parfois je pense que cette clé, l'Italie l'a, la France ne l'a pas. C'est une clé effrayante, c'est les spreads, c'est la situation dans les marchés financiers. Lorsque j'étais appelé à m'occuper de mon pays, il y avait une situation dans les marchés financiers que la France n'a jamais connue. Mais la France, et je me demande si les Français en sont bien conscients, se trouve dans une espèce de nirvana concernant les marchés financiers, puisque tout le monde de la finance mondiale pense que l'Allemagne ne pourrait jamais laisser tomber la France, point de vue financier, parce que sinon le projet tout entier de zone euro et de construction européenne ferait faillite. La France jouit de cette rente implicite fort dangereuse de laquelle l'Italie, l'Espagne ne jouissent pas. Et donc, en regardant la France, je pense parfois que les pays nordiques de l'Europe, à partir de l'Allemagne, ont peut-être raison lorsqu'ils disent les acteurs publics, les politiques, les gouvernements n'ont vraiment le courage d'agir à la hauteur du défi que s'ils sont soumis à la pression des marchés financiers. Moi, j'ai contrasté et je contraste cette vision mécanique financière effrayante. Et on a par exemple obtenu au sommet, avec l'aide du président Hollande, qui était le dernier venu, mais pas le dernier, au sommet de juin 2012, on a obtenu cette prise de conscience unanime des chefs d'État et de gouvernement que dans la hauteur des spreads, il y avait aussi un élément de méfiance vers l'euro dans son ensemble, pas seulement vers l'Italie ou l'Espagne, etc. Et sur la base de cette prise de conscience officielle, la Banque centrale européenne a pu ensuite mettre en place ses opérations OMT, etc., ses opérations potentielles qui ont quand même rassuré les marchés. Mais si j'étais français, je serais beaucoup plus content que je ne le suis, à plusieurs égards, en étant italien. Mais je me poserai cette question. Est-ce que je peux être un des, comme pays évidemment, pas comme personne, un des vrais leaders dans la construction européenne si je n'ai pas ce surplus de sens de responsabilité et d'activisme que d'autres ont été forcés d'avoir à cause du fait qu'ils ne peuvent pas jouir d'un privilège que j'ai? J'espère ne pas avoir été impoli ou inapproprié, mais en tout cas, pour conclure avec un mot plus léger, la toute dernière fois que j'étais à Lyon, c'était décembre 2012 pour le sommet bilatéral. D'ailleurs, le sénateur Maire était là avec le président Hollande, avec moi. Le sommet bilatéral franco-italien, je me sentais un amateur de politique appelé temporairement à jouer le rôle des grands. Je me sentais dans un moment de puissance. Je n'aurais jamais cru que j'aurais eu, après un an, la vraie puissance d'un grand témoin à Lyon. Merci beaucoup de m'avoir donné cela.
Merci beaucoup. Et je remercie tous les intervenants et puis j'espère que ce message vous a donné beaucoup d'énergie parce que pendant 3 jours, ça va être très actif et il en faudra. Merci.